VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. L'émissaire de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé au Mali où les nouvelles autorités ont appelé hier à la levée des sanctions. Nous ferons le point sur la 75e Assemblée générale des Nations unies avec notre correspondante à New York. Les Américains rendent un dernier hommage à la juge Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. L'opposant russe Navalny est sorti de l'hôpital en Allemagne. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, une délégation ouest-africaine conduite par l'ancien président du Nigeria est arrivée à Bamako. Elle doit faire le suivi des recommandations du mini-sommet de la CEDEAO à Accra avant de participer vendredi prochain à la cérémonie d'investiture du président de la transition, Bando. Kassim Traoré, pour plus de précisions.
C'est le ministre des Affaires étrangères du Ghana qui est arrivé le premier à Bamako. Son pays assure actuellement la présidente tournante de la CEDEAO. En plus de lui, il y a l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO et le président du conseil des ministres. Ils doivent échanger dès aujourd'hui avec les ambassadeurs des États membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Union européenne et l'Allemagne. La délégation conduite par Goodluck Jonathan échangera avec les ambassadeurs des pays de la CEDEAO à Bamako. Demain dans la matinée, ils vont rencontrer le Conseil national pour le salut du peuple avant de rendre une visite de courtoisie au président de la transition Bandao. Le vendredi 25 septembre, avant la fin de leur mission, la délégation de la CEDEAO participera à la cérémonie d'investiture du président de la transition. C'est après cette cérémonie que l'on connaîtra le nom du premier ministre de la transition, un nom très attendu aujourd'hui à Bamako, car il sera le patron de l'exécutif et maître de l'administration au travail. La mission de la délégation de la CEDEAO sera sanctionnée par une conférence de presse d'évaluation des recommandations du mini-sommet d'Accra. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, le président sortant Alpha Condé a appelé sa communauté à faire bloc autour de sa candidature à un troisième mandat. Cette élection n'est pas seulement une élection, c'est comme si nous étions en guerre, a-t-il déclaré en vidéoconférence pour cause de pandémie. Fait inhabituel, le président Condé s'est exprimé en malinké devant ses partisans à Sikiri alors qu'il s'exprime le plus souvent en français lors de ses interventions officielles. Au Nigeria, au moins 9 personnes ont été tuées dans un incendie provoqué par l'accident d'un camion-citerne chargé de carburant qui s'est renversé sur une route très fréquentée dans le centre du pays. Le bilan est beaucoup plus lourd selon des médias locaux qui évoquent plus de 20 morts. Les accidents de ce type sont fréquents au Nigeria dont les routes sont mal entretenues. En République démocratique du Congo, une dizaine de personnes sont mortes et des centaines de maisons incendiées en 3 jours d'affrontements communautaires dans la région du Kasaï, au centre du pays, selon l'ONG catholique Caritas. Par ailleurs, d'anciens chefs de guerre ont été envoyés comme émissaires de paix auprès de miliciens en Ituri. Nous reviendrons sur ce dossier en deuxième partie de ce journal. Au Soudan du Sud, des politiciens de haut rang et des responsables gouvernementaux ont détourné des fonds provenant notamment du ministère des Finances, a affirmé une commission de l'ONU évoquant la somme de 36 millions de dollars empochés depuis 2016. Cette accusation intervient quelques jours après que le président Salva Kiir a démis de ses fonctions le ministre des Finances et de la Planification et renvoyé le chef du Trésor public et le directeur de la compagnie nationale pétrolière, Nilpet. La justice algérienne a condamné les frères Kouninef à de lourdes peines de prison lors d'un énième procès pour corruption de l'ère Bouteflika. Ces 3 hommes d'affaires sont membres d'une famille proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La 75e édition de l'Assemblée générale de l'ONU se poursuit avec des discours de chefs d'État envoyés par message vidéo. Cette édition se tient virtuellement en raison de la pandémie du Covid-19. Le point sur le programme de la journée avec notre correspondante à New York, Dilly Dico.
Dans la matinée, quelques discours de chefs d'État africains dont le Ghana, l'Algérie et le Kenya, puis le Togo et le Libéria prendront la parole dans l'après-midi. Hier, le président Félix Tshisekedi de la RDC a demandé l'annulation de la dette des pays en développement. Le président rwandais Paul Kagame s'est posé en fervent défenseur de l'OMS que les États-Unis ont quitté en dénonçant la gestion de la pandémie de coronavirus. Demain, le Nigérien Mahamadou Issoufou, président de la CDAO, doit prononcer son discours. Il sera suivi par le président Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat très contesté par l'opposition ivoirienne. Le Burkina et le Gabon prendront aussi la parole, puis le Guinéen Alpha Condé, lui aussi candidat à un troisième mandat. Demain, dans l'après-midi, ce sera au tour du Mali, mais on ne sait toujours pas qui va prononcer le discours, deux jours après la désignation de Ban Dao comme président de la transition et qui doit prêter serment vendredi. Dili Diko à New York, VOA Afrique.
Des milliers d'Américains rendent un dernier hommage à la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi. Son cercueil est placé dans le hall de la Cour suprême. Le président Trump a prévu de s'y rendre demain, jeudi. Le point avec Abdourahmane Dia.
Pendant deux jours, mercredi et jeudi, la dépouille de la juge sera exposée à la Cour suprême où elle a servi pendant 27 ans. Les Américains pourront venir lui faire leurs adieux, mais devront rester à l'extérieur en raison de la pandémie de COVID-19. Vendredi, la juge RBG sera transportée dans l'enceinte du Capitole, le siège du Congrès américain qui fait face à la Cour suprême. Une cérémonie officielle aura lieu dans la salle des statues, a précisé la chef de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Elle sera inhumée dans l'intimité au cimetière national d'Arlington, près de Washington. Le président Donald Trump a indiqué qu'il allait annoncer samedi sa candidate pour remplacer cette juge progressiste malgré l'opposition des démocrates qui souhaitent que cette nomination se fasse après les élections de novembre. Les républicains qui contrôlent le Sénat semblent avoir assez de voix pour confirmer le choix du président. Cinq femmes conservatrices sont sur la liste de Donald Trump, dont Amy Coney Barrett, 48 ans, et une magistrate d'origine cubaine, Barbara Lagoa, 52 ans.
L'opposant russe Alexei Navalny a été autorisé à quitter l'hôpital et compte poursuivre sa convalescence en Allemagne. Cela fait un mois qu'il a été pris en charge à Berlin dans un état grave à la suite d'un empoisonnement présumé au Novichok.
Navalny, 44 ans, est sorti hier de l'hôpital de la Charité à Berlin. Son état de santé s'est amélioré au point que les soins intensifs ont pu être interrompus selon l'établissement sanitaire qui assure que, je cite, au vu du déroulement du traitement à ce stade et de l'état actuel du patient, les médecins considèrent qu'un rétablissement complet est possible. Le Kremlin a aussitôt réagi en affirmant qu'il était libre de revenir en Russie, comme tout citoyen russe. Un retour semble toutefois à ce stade prématuré. Alexei Navalny va rester pour le moment en Allemagne. Son traitement n'est pas terminé, a annoncé sur Twitter sa porte-parole Kira Larmich. Interrogé le 15 septembre sur un éventuel retour de l'opposant en Russie une fois rétabli, elle avait répondu qu'il n'avait jamais été question d'autre chose. Victime d'un malaise au cours d'un vol en Russie le 20 août, Alexei Navalny a d'abord été admis dans un hôpital en Sibérie avant d'être transféré en Allemagne, où il a été conclu que Navalny a été victime d'un empoisonnement au Novichok, une substance neurotoxique conçue par des spécialistes soviétiques.
Au Bélarus, le président Alexandre Loukachenko a été investi en catimini aujourd'hui pour son sixième mandat. Il est confronté depuis la présidentielle du 9 août à une contestation inédite. Des dizaines de milliers de personnes manifestent chaque dimanche à Minsk malgré la répression policière. La pandémie du Covid-19 a fait plus de 971 700 morts dans le monde et infecté 31,6 millions de personnes. Les États-Unis ont dépassé les 200 000 morts. Hier, le président américain Donald Trump a accusé Pékin d'avoir laissé le virus chinois infecter le monde lors de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient en mode virtuel. L'ambassadeur de la Chine à l'ONU, Zhang Jin, a rejeté des accusations infondées. En Europe, le coronavirus a déjà contaminé plus de 5 millions de personnes et la France pourrait, comme en Angleterre, durcir les restrictions dans sa capitale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
L'Union européenne a donné le coup d'envoi de pourparlers avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, premiers producteurs mondiaux de cacao, pour rendre plus durable leur chaîne de production. Les discussions doivent identifier des mécanismes susceptibles de décourager la déforestation ou le travail des enfants, tout en incitant les entreprises européennes à se montrer responsables dans leurs achats de fèves. Abidjan et Accra disposent d'un accès commercial sans quota ni droits de douane à l'Europe, qui importe 60% de cacao. L'économie marocaine va se contracter en 2020 de 6,3% et non de 5,2%, comme l'avait annoncé la Banque centrale en juin, en raison d'un redémarrage plus long que prévu face au coronavirus. Le secteur agricole devrait connaître un recul de 5,3% à cause d'une sécheresse exceptionnelle. Les secteurs non agricoles devraient reculer de 6,3% en raison de la fermeture quasi totale des frontières et le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés. Pour terminer, la justice angolaise a arrêté Carlos Manuel de São Vicente, un homme d'affaires marié à une fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos, dans le cadre d'une campagne anticorruption. La justice a aussi annoncé la saisie des bâtiments et des sommes d'argent. Monsieur de São Vicente nie toutes les accusations. Il a dirigé des firmes qui vendaient des contrats d'assurance à la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. En 2018, des procureurs suisses ont saisi 900 millions de dollars sur les comptes de M. São Vicente dans le cadre d'une enquête relative au blanchiment d'argent.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Direction le Burkina Faso pour commencer. Après un début tumultueux du championnat de première division le week-end écoulé, avec 8 clubs qui avaient refusé d'y prendre part, les choses sont rentrées dans l'ordre. La Fédération burkinabé de football et les protagonistes ont accordé leur violon hier au cours d'une rencontre. Les détails avec Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
L'on se rappelle que 8 clubs avaient décidé de boycotter la première journée du Faso Foot au motif que 4 points de règlement ne leur satisfaisaient pas. À la suite d'une rencontre entre la fédération et l'ensemble des représentants des 18 clubs du Faso Foot, des points d'accord ont été trouvés. Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football.
La réunion s'est très bien passée dans une très bonne ambiance. Les clubs ont été très positifs dans leur démarche et ensemble nous avons examiné les 4 points et nous sommes tombés sur un accord.
Que ce soit la police d'assurance des clubs, la flexibilité sur le port des maillots de la fédération ou encore la promesse des 30 millions, les clubs repartent satisfaits. Aboubakar Sidiki Traoré, président de l'ASFB.
Moi, je peux dire qu'on a été satisfait même sur les 4 points. Par rapport au 4e point, la promesse, le président a toujours dit qu'il va voir d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la saison, ce qui est faisable.
Le colonel Yacouba Ouédraogo, président de Salitas FC, n'a Dieu que pour l'intérêt de ses joueurs.
Au-delà même de cette requête-là, nous voyons un peu l'intérêt des joueurs de Salitas parce que c'est des jeunes qui sont déjà prêts. J'irai rendre compte au niveau du comité exécutif et on pourra aviser.
Le week-end prochain aura lieu la deuxième journée du Faso Foot. Les clubs qui ont décidé de boycotter la première perdent leur match sur tapis vert selon le règlement de la Ligue de football professionnel. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique. Ouagadougou pour VOA Afrique. Ouagadougou pour VOA Afrique.
En Europe, Robert Lewandowski, Emmanuel Neuer, vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, et Kevin De Bruyne de Manchester City sont les 3 finalistes du prix du meilleur joueur de l'année décerné par l'UEFA. Ils sont en lice pour succéder au Néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, récompensé l'an dernier. Neymar se classe 4e ex-aequo avec Lionel Messi et Kylian Mbappé 7e. Chez les femmes, 2 des 3 finalistes ont remporté la Ligue des champions avec Lyon. Sa capitaine, la Française Wendy Renard et l'Anglaise Lucy Bronze, déjà lauréate l'an dernier, est partie cet été pour Manchester City. La Danoise Pernille Harder, transférée début septembre de Wolfsburg à Chelsea, complète la liste. Le prix de meilleur entraîneur masculin de l'année reviendra forcément à un Allemand, Hansi Flick de Bayern Munich, Jürgen Klopp de Liverpool ou Julian Nagelsmann de Leipzig. Les prix seront remis le 1er octobre, jour du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2020-2021.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous, place au dossier du jour. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, d'anciens chefs de milice qui ont purgé leur peine d'emprisonnement à la Cour pénale internationale sont en mission en Ituri. Ils ont été envoyés par le président Félix Tshisekedi pour promouvoir la paix. Eddy Sango a joint à Bounia, chef-lieu de l'Ituri, un de ses anciens pensionnaires de la CPI et président du Front des nationalistes et intégrationnistes, Floribert Ndjabou.
Nous sommes un groupe de 12 personnes. Moi, je suis un ex-militaire, je suis du FNI, dont je suis le président pour le moment parce que je deviens un parti politique. Nous avons été envoyés à l'Ituri avec les autres ex-militaires par le président de la République pour pouvoir parler aux éléments de Codeco, discuter avec eux, négocier avec eux pour qu'ils puissent essayer à les inciter à l'Ituri et d'aider pour qu'ils puissent adhérer au projet de la paix.
C'est pour votre expérience que vous avez été envoyé. Vous avez été en prison pendant 15 ans à la CPI, puis libéré. Quel est le message que vous apportez à ce jeune milicien que vous rencontrez?
Ce n'est pas le nôtre, le message de celui du chef de l'État. Mais nous, nous partageons avec eux notre science de la prison. Sinon, le message est celui du président que je vous ai tantôt dit, c'est que le président de l'État demande de s'aligner sur le projet de la paix, donc il essaie avec le combat contre les forces armées et il doit dire au président. En dehors de ça, nous voulons avoir parlé de notre expérience de la prison. Ça, c'est secondaire, c'est pas principal ça.
Mais qu'est-ce qui peut les convaincre si ce n'est pas votre expérience?
Quand le président vous envoie quelqu'un, il vous donne sa main, si vous refusez, alors après il y aura quoi? Le délit. Donc, quelqu'un qui voudrait refuser le message du président, cela veut dire quoi? C'est qu'il veut la guerre. Donc, je crois que ça, c'est déjà convaincu. Le fait que nous ayons été envoyés par les chefs de l'État, c'était déjà convaincu par rapport à ça. D'ailleurs, ils ont manifesté ça justement le lendemain. Quand nous avons été élus par le président, ils ont dit que voilà, vous allez venir. Ils ont cessé les mêmes jours avec la guerre.
Comment vous accueille-t-il ces jeunes miliciens que vous avez laissé certains, est-ce qu'ils vous connaissent? Ils sont armés quand même.
Évidemment, ils sont armés et ils sont hostiles. C'est ce qui a fait que la mission n'a pas été facile, mais on arrive quand même à discuter avec eux, à parler avec eux. Par exemple, à Bambou, ils ont tiré sur nous après les journées, mais nous, nous sommes restés constants. On a dit que non. Ils avaient le choix entre refuser la maintenance du chef de l'État ou d'accepter. Mais on a aussi expliqué les conséquences qui adviendraient s'ils n'acceptaient pas la maintenance du chef de l'État.
Et la Codeco et d'autres miliciens ont accepté des signer un cessez-le-feu. Mais il y a près de 2 semaines, ils ont fait incursion quand même dans la ville avec armes lourdes. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ils sont venus revendiquer leur prise en charge et puis également la libération de leur qui était en prison centrale de Bounia.
C'est pas la première fois qu'on signe un cessez-le-feu. Quand vous étiez encore chef ou leader milicien, on a plusieurs fois enterré la hache de guerre. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, c'est la bonne?
Ici, il y a l'armée qui se bat contre les Codeco. C'est différent. C'est ce qui dit dans le temps, les conflits détenus, c'est différent. Il y a une hostilité entre les autres détenus. Ça, c'est un travail qui doit se faire par après pour la cohabitation pacifique entre les peuples ituriens. Mais pour le moment, pour que cela se fasse, notre mission, c'est d'abord de faire arrêter la guerre d'abord.
Floribert Ndjabou, président du Front des nationalistes et intégrationnistes, il était joint à Bounia, en Ituri.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, le gouvernement a approuvé l'ouverture d'une liaison aérienne entre Abuja et Kaduna à cause de l'insécurité croissante sur ce trajet de 180 km. Une compagnie aérienne va assurer la ligne entre Kaduna et Abuja pour les hauts fonctionnaires et les personnes fortunées. L'initiative suscite de vives réactions dans le pays. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La route Kaduna-Abuja est récemment devenue l'une des routes les plus dangereuses du Nigeria, avec des coupeurs de route menant des attaques régulières. On y fait également souvent état de kidnappings orchestrés par des individus lourdement armés. Le trajet se situe aussi dans une région où le groupe Boko Haram est très actif. Mais la décision des autorités fédérales provoque des réactions mitigées au sein de la population, alors que le train qui circule sur cette route vient d'augmenter les frais de transport à 100%. Le capitaine Mohamed Bala Djibrin est pilote à la retraite et ancien directeur au ministère de l'Aviation civile.
Le choix des compagnies pour opérer dans un État n'a rien à voir avec la sécurité. La sécurité est dans les mains du gouvernement. Les compagnies sont à la recherche de l'argent. Elles sont libres d'opérer partout, entre deux points dans le pays. Donc, c'est une bonne chose d'avoir des aéroports partout. Les gens pourront voyager s'ils ont la volonté de payer. C'est vraiment bien.
La route qui fait environ 180 km n'a pas pu être sécurisée par le gouvernement, obligeant de nombreux voyageurs à l'éviter. Une situation qui isole la ville de Kaduna et ralentit son économie. La route a une importance capitale reliant le sud au nord. Après la capitale fédérale Abuja, située au centre du pays, s'inquiète l'activiste Fethi Nwadiji.
I'm truly concerned and I'm worried that government cannot take care of the security of
Je suis réellement préoccupée et je m'inquiète que le gouvernement n'arrive pas à sécuriser cette route pour permettre aux Nigérians ordinaires de circuler librement. Cette route est l'une des plus importantes routes. Si les bandits et les kidnappeurs ont pris le contrôle de cette route, cela signifie que les activités économiques des populations vivant dans la zone seront affectées.
Un autre risque associé au voyage sur cette voie pour les voyageurs de la capitale du Nord est le nombre élevé des accidents de la route enregistrés depuis quelques temps. Pour Kabiru Adamo, consultant en sécurité, la décision du gouvernement vise certes à sécuriser des hommes d'affaires et des hautes personnalités qui ne veulent pas prendre tous ces risques. Mais les conséquences d'une telle initiative ne sont pas négligeables.
La conséquence d'une telle décision est qu'est-ce qui est arrivé au contrat social entre le Nigérian ordinaire qui n'est pas riche et pour certaines circonstances est obligé d'utiliser cette route et le gouvernement. Malheureusement, cela veut dire que la perception d'un Nigérian et que le gouvernement ne peut pas assurer ou respecter ce contrat social.
De nombreux voyageurs ont récemment exprimé leur colère face à l'augmentation de 100% des tarifs du train par le gouvernement nigérian, forçant la majorité à reprendre la route pour se rendre à Kaduna, malgré les menaces de sécurité. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La possibilité d'un plan Marshall pour l'Afrique était au centre de la célébration la semaine dernière de l'African Heritage Month aux États-Unis. Le centre de l'UNESCO pour la paix, basé à Washington, a organisé une conférence sur la possibilité d'un tel modèle animé par l'économiste d'origine ivoirienne Marcelin Kofi Alé. Au micro d'Éric Manirakiza, il soutient qu'un plan Marshall serait un partenariat gagnant-gagnant pour l'Afrique et les USA.
L'Afrique présente pratiquement les mêmes caractéristiques que la Chine, en tout cas il y a quelques années pour la Chine. Nous avons des jeunesses formées, nous avons le cheap labor, la main d'œuvre moins chère, et donc il s'agit donc de profiter donc de ces opportunités, de ce potentiel pour industrialiser l'Afrique. Et ce serait vraiment l'axe majeur d'un plan Marshall.
Lors de cette conférence, vous avez soutenu qu'un plan Marshall serait un partenariat gagnant-gagnant pour l'Afrique et les États-Unis. Voudriez-vous en parler davantage?
Oui, ce serait un partenariat gagnant-gagnant parce que d'abord, le plan Marshall qui a été conçu par les États-Unis en direction de l'Europe de l'Ouest, les résultats qui ont été donc enregistrés à ce niveau ont montré bien que ça a été un partenariat gagnant-gagnant. Au même moment que ça a permis aux Américains donc de soutenir leurs frères européens et de donner un nouveau souffle à leur économie. On a eu des croissances très fortes sur cette période pour ces pays bénéficiaires, 17 au total. Donc, on a eu une croissance entre 15 et 25% du PNB, produit national brut de la plupart de ces pays. Mais en même temps, les Américains ont énormément gagné parce que tous les produits, les biens et services qui étaient impliqués dans le plan Marshall, c'était bien des produits américains. Donc, ça a permis, pendant que l'Amérique aidait donc l'Europe de l'Ouest, de construire un partenariat au niveau commercial. Ça a permis l'écoulement des biens américains, dont les États-Unis ont aussi gagné dans un tel partenariat. Aujourd'hui, un tel modèle pour l'Afrique permettrait d'avoir un partenariat gagnant-gagnant aussi sur plusieurs aspects. Un bon nombre de pays africains aujourd'hui sont parmi les pays qui font le plus de croissance économique au monde. Vous avez un ensemble de pays africains aujourd'hui qui sont considérés soit comme des économies émergentes ou des économies frontières. Vous avez un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs avec une classe moyenne qui est en train de croître énormément. C'est un potentiel énorme pour l'économie américaine. Donc, en termes de positionnement stratégique, l'Amérique est considérée comme le leader de free world, le leader du monde libre. Toutes les poches de pauvreté dans le monde sont une menace pour la paix globale et les États-Unis ont un intérêt à renforcer leur position de leader du monde libre en faisant en sorte que ces poches de pauvreté, que ce soit en Afrique ou dans d'autres continents, ces poches de pauvreté donc soient combattues et annihilées.
C'était l'économiste ivoirien Marcelin Kofi Alé.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la 75e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à partir du 22 septembre. Cette année, les réunions se tiennent dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et seront essentiellement virtuelles. Même si d'autres thèmes liés à la sécurité et au maintien de la paix seront abordés, cette urgence médicale mondiale occupera une bonne place dans les discussions. Comment mobiliser plus de moyens pour combattre la pandémie en Afrique? Comment s'assurer que l'Afrique ne sera pas lésée dans la distribution de futurs vaccins et traitements? Nous discuterons tout cela avec nos invités ce jeudi 24 septembre à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Le président Donald Trump a déclaré avoir l'intention de promouvoir l'éducation patriotique dans les écoles américaines afin de protéger les enfants de l'endoctrinement de la gauche radicale qui, selon lui, considère les États-Unis comme un pays raciste. C'est un reportage de Patsy Widaskuwara, relaté par Nathalie Barge.
Selon le président Donald Trump, les troubles sociaux aux États-Unis ont leur origine dans les programmes enseignés à l'école.
Les émeutes de la gauche et le chaos sont le résultat direct de décennies d'indoctrinement de gauche dans nos écoles.
En réponse à des demandes d'inclure dans les leçons d'histoire des discussions sur le racisme et l'esclavage, M. Trump avait déclaré que les écoles endoctrinent les élèves en leur inculquant que l'Amérique est une nation méchante et raciste pour les rendre honteux de leur propre histoire.
En examinant chaque problème à travers le prisme de la race, ils veulent établir une nouvelle ségrégation et nous ne devons pas permettre que cela se produise.
Le président Trump veut que les écoles rétablissent des cours d'éducation civique, plus précisément d'éducation patriotique, selon ses termes. Rich Milner enseigne la justice raciale dans l'éducation à l'université Vanderbilt. Il dit que les programmes scolaires doivent inclure des discussions honnêtes sur l'histoire de l'esclavage et des droits civiques, ainsi que sur la façon dont le racisme affecte la société américaine aujourd'hui.
We need to have curricula.
Nous devons avoir des programmes ou avoir des possibilités de programmes qui montrent la vérité. Et la vérité est que nous avons beaucoup de travail à faire dans la lutte contre le racisme dans ce pays.
Alors que la question raciale est devenue un thème central à l'approche de la présidentielle de novembre, le président Donald Trump a qualifié le mouvement Black Lives Matter de symbole de haine et a nié l'existence d'un racisme systémique. Son rival démocrate, Joe Biden, a un point de vue différent.
Le péché originel de ce pays pèse encore sur notre nation aujourd'hui et parfois il nous arrive de l'ignorer. Nous allons de l'avant avec un milieu d'autres tâches dans notre vie quotidienne, mais il est toujours là.
Lors d'une conférence sur l'histoire américaine aux Archives nationales le 17 septembre, Donald Trump a annoncé qu'il signerait un décret portant création de la commission 1776, en référence à l'année de la déclaration d'indépendance, pour promouvoir l'éducation patriotique. Il a critiqué le projet 1619 du New York Times, en référence à l'année où les premiers esclaves africains ont été amenés en Amérique, lui reprochant de servir la propagande anti-américaine.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.